www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Alors, donc Laetitia ici présente va nous parler de son voyage en Gambie. Laetitia a fondé une association qui s'appelle Djabakunda, c'est le nom éponyme du village qui se situe dans les terres en Gambie. Et avec l'aide de son mari, ben vous y faites des choses solidaires, que tu vas nous expliquer. Alors juste pour que tout le monde sache, on va enregistrer, c'est pour Libradio, donc c'est une radio d'inspiration libertaire, une radio libre. Si des personnes ici souhaitent à un moment donné intervenir et qu'elles ne veuillent pas s'entendre, vous nous le direz, puis on effacera bien entendu les commentaires des personnes qui ne souhaitent pas les voir, les entendre. Voilà, il y aura donc une diaporama que va un petit peu commenter, en fait, ça nous fera le canevas du voyage que tu as effectué en Gambie. Donc une petite partie comme ça, et puis ensuite la deuxième partie ce sera les questions-réponses que toutes les personnes ici présentes souhaiteraient poser. Ça va comme ça?
D'accord.
Alors je vais mettre le diaporama, et puis je vous laisserai voir, vous déplacer pour que vous puissiez voir comme il faut. Tchac. Voilà, et puis toi la parole.
Alors, déjà, pour situer la Gambie, c'est un petit pays dans l'Afrique de l'Ouest. C'est une enclave à l'intérieur du Sénégal, en fait. Elle n'a que des frontières sénégalaises et puis un côté où il y a l'océan Atlantique. C'est pas très grand comme pays, hein. Je crois que c'est un des plus petits pays de l'Afrique continentale. Elle a 11 300 km². Il y a une rivière qui traverse au milieu qu'on appelle simplement fleuve Gambie. Là, alors, si on regarde les photos, vous avez vu, on est déjà parti. Il y a eu l'avion avant, on arrive sur place. Vous allez pouvoir voir un peu comment c'est sur place. Là, c'est au niveau d'un jardin, ça va un peu vite. Là, vous avez un manguier. Avant, c'était des plantes, je ne sais pas si vous connaissez les okras, en fait. On cuisine ça dans les sauces. Je vous montrerai sur les photos, on en verra. Là, c'est des oranges sucrées, petite fresque que j'ai fait parce que l'association, en fait, on est beaucoup de créateurs. En parlerai après. Voilà, on fait de la peinture, on fait plein de choses. Là, c'est de la menthe parce qu'on fait le thé, le hataya. Les gens, ils aiment beaucoup discuter autour d'un thé, partager leur moment. Là, vous voyez mon petit qui fait le ménage. Alors là, c'est une région à Katikali où on peut toucher les crocodiles. Les gens vont là-bas aussi prendre l'eau pour se purifier. En fait, c'est un endroit sain, en fait. Voilà. Alors, bon, faut avoir confiance, hein. Toucher, je vous dis franchement, hein, moi, je suis comme ça et puis.
Je laisse toucher non pas là.
C'est assez impressionnant. Ça, c'est un arbre cotonnier. Quoi, il y a deux types d'arbres à coton, en fait. Là on voit ça, le tronc, c'est un peu, ça ressemble au crocodile, c'est dans la même région. Un autre crocodile là que on a pas trop envie de s'approcher, mais bien à côté. Là vous voyez un œuf de crocodile avec un membre de la famille. Ils ont fait comme un petit muséum en fait, sur place. Coucher de soleil. La vaisselle. C'est comme ça, une bassine, tout à la main. C'est la sœur de mon mari. Là, un petit membre de la famille. Avec mon mari, on a fait aussi on paye les écolages en fait de plusieurs enfants parce que la Gambie, il y a beaucoup de problèmes d'analphabétisme. En fait, il y a à peu près la moitié de la population qui ne sait pas lire. Les okras. Là, vous voyez, c'est ça que je disais, les okras. Il y a du piment, ça c'est les aubergines africaines. La viande, c'est assez cher là-bas, la viande. La plupart du temps, ils mangent du poisson. Hein. Là, on était en période de fête, là. Ça nous a attiré les vautours, cette viande. Et là, vous voyez justement les okras au bout de la plante, je disais. C'est la saison des pluies. Je suis partie avec maman qui est ici présente cet été pour amener justement du matériel médical, vous verrez par la suite, dans la région de Djabakunda. Là, c'est un village de pêcheurs qui s'appelle Tanji. Voilà, je vais s'apprécier les pirogues. Et c'est l'océan Atlantique, hein, si jamais. Voilà, les poissons qu'on a achetés sur place là-bas à Tanger, en fait. Une seule, plein de petits poissons. Il y avait eu énormément de pluie le jour d'avant, vous voyez, les rues commençaient. Et du coup, il y avait plutôt des petits poissons, ils n'étaient pas partis en mer trop loin, quoi. Ça, c'est, vous avez vu l'électricité?
Oui, c'est mieux qu'à la maison. C'est mieux qu'à la maison.
Voilà. Là, c'est Sénégambia. C'est le côté touristique parce que la Gambie vit pas mal de l'agriculture et un peu du tourisme au niveau de Sénégambia. Du côté de Banjul, qui est la capitale, en fait. Alors là, on voit déjà un baobab. On va partir après dans la région des baobabs, justement. Bakunda, c'est une région avec beaucoup de baobabs. Alors là, c'est un artisan avec qui on travaille aussi, qui travaille le bois. Là, il est en train de faire un dessus de lit. Il est designer et puis il fait aussi... Là, vous avez des papayes. Des cocos. Là, des manguiers. Un manguier avec deux petites mangues, là. Là, j'ai appris à cette fille qui s'appelle aussi Laetitia, en fait, qui est la fille du frère à mon mari, qui malheureusement n'est plus là. Je lui ai appris à faire fixer le wax sur les tongs, comme on fait ici. Et maintenant, elle a continué à faire et ça lui a donné un petit travail. Et elle arrive sur place à vendre un peu ses tongs comme ça. Voilà. Là, c'est en route, alors justement, pour la région de Ndjambakunda, dans les transports locaux. Avec la saison des pluies, c'est très vert. Alors, tu me posais la question la dernière fois. J'ai demandé à mon neveu, en dehors de saison de pluie, c'est vrai qu'il n'y a pas autant d'herbes. Mais bon, il y a toujours tous les arbres et tout ça. Maman, avec sa petite école, on est à Ndjambakunda, là. On est arrivé, vous aviez la mosquée juste avant, qui a été faite par tous les habitants du village. Ils se sont réunis et l'ont construit ensemble. Voilà, la végétation là-bas. Ça, c'est Kassam, je crois. Maintenant, ils ont mis ça autour des manguiers, des nouveaux petits arbres pour éviter que les chèvres viennent manger, en fait. Voilà. C'est un projet qu'ils ont fait au sein du village. Un vieux pilon. Là, c'est des nids d'oiseaux. On est au niveau de l'hôpital Ndjambakunda, qui a été, en fait, en 2012, sponsorisé par les Allemands. Ce qui ont fait qu'ils ont pu beaucoup développer au niveau de tout ce qui est bâtiment. Moi, j'ai trouvé super quand je suis arrivée parce que je connaissais... j'avais pas été depuis environ 10 ans. Bon, toujours resté en contact comme ça. Mais au début, il y avait un tout petit bâtiment, rien du tout. Et là, mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Et nous, on s'occupe justement d'essayer de faire un suivi maintenant en amenant du matériel médical sur place. Là, vous avez un baobab. Et tout ça, c'est tous des baobabs. Là, c'est aussi le tronc d'un baobab. Et ça, c'est pas naturel. Les gens, ils prennent l'écorce en bas et puis ils construisent, quoi, ils font des cordes avec. Et là, vous voyez les fruits du baobab. Alors ça, c'est comestible. Un peu tout est comestible, en fait. Hein. Les feuilles aussi, c'est riche en vitamine C. Et c'est très bon, le jus. D'ailleurs, Cyril adore ça, je peux vous dire. Voilà. Alors ça, par contre, c'est une belle fleur, mais c'est poison. Hein. Pas comestible, hallucinogène, tout ce que vous voulez, mais... Voilà. Voilà les pluies. Alors là, c'est justement la région d'Ndjambakunda où on aimerait développer et mettre un puits pour pouvoir développer l'agriculture sur place, le bétail et tout ça, pour que justement puisse se développer un peu là-bas. Et on travaille justement maintenant avec des personnes qui vont dans le bush, nous ramènent des plantes médicinales, comme le Sinsilinyamo, c'est un thé qui est très bon pour tout ce qui est voie respiratoire. Ou bien il y a le Jambakata, ça c'est un peu comme la camomille, on peut nettoyer les yeux. Là-bas, ils l'utilisent sur place, ils le boivent genre un peu tous les matins et ça aide pour la fièvre aussi. Pardon.
La chanson de Jambakata.
Jambakata. Là, on est à Bassé. On est parti au fin fond des terres pour rencontrer d'autres artisans, en fait, parce qu'on fait un système de commerce équitable avec le magasin ici. Voilà. Alors, vous voyez un peu dans la ville de Bassé comment c'est. Voilà l'artisan que bon, je suis pas sûre que j'ai une photo en train de lui ici, mais non. Mais on voyait son métier à tisser, en fait. Voilà. Là, c'est sur la route des petites cabanes. Voilà. Le fer passé traditionnel avec le charbon. Voilà. Ça vous rappelez peut-être le fer passé de vos arrière-grand-maman. Je sais pas. Voilà. Ouais. Et puis là, c'est un nyankata. D'ailleurs, on me disait que je chante sur la scène, mais je ne chante jamais. Il y a une petite chanson que je peux vous chanter, par exemple, Nyankata, si vous voulez. Je vous la fais. Nyankata, nika, nima, alboloko, sini. Nyankata, nika, nima, alboloko, sini. En fait, c'est pour dire le Nyankata, il est bon, il est bien pimenté, applaudissez. Et puis, en fait, c'est les enfants qui s'amusent à chanter ça. C'est une petite chanson traditionnelle comme ça. Voilà. Parce que bon, on m'a justement dit sur une des photos, oui, t'es en train de chanter avec Cyril, et puis en fait, je suis juste en train de présenter l'association. Moi, je sais pas chanter. Alors là, c'est notre premier défilé au pavillon bleu. Justement là à côté, hein, à côté du bus. Voilà, avec un superbe mannequin. Mama Dougoni à la guitare, à la cora, en fait, qui était venue jouer. Ma fille, Emmanuel. Et puis, ben, vous voyez, justement, ça, c'est tous des vêtements qu'on crée ici sur place avec un couturier qui vient du Burkina Faso qu'on a vu juste au tout début des photos, qui était avec mon mari. Et puis, ben, on fait diverses créations. Ça, ça a été créé en Gambie avec le tie-dye. Là, c'est moi qui fais avec toutes les chutes de wax parce qu'on fait beaucoup avec le recyclage, tout ça, on récupère. Là, c'est un sur-mesure avec une super mannequin petite amie. Là, c'est un autre défilé qu'on a fait avec une association de Ivory Coast, l'association Isroma. Et c'était dans les locaux du Parti du Travail. Voilà, on a fait toute la soirée. Très sympa, très chaleureux. Là, c'est les vêtements tie and dye, c'était aussi en Gambie. Les colliers en wax.
Je
ne
sais pas si tout le monde sait ce que c'est le wax.
Ah, le wax, oui, je vais expliquer. Oui, c'est les tissus africains, les tissus imprimés. Il y en a des de toutes sortes, milieux, toutes couleurs, tout. Et nous, en fait, on mélange le wax et le popeline. Le popeline, c'est juste un tissu coton qui est assez souple. Comme on voit dans les tenues, pas celle-là, là c'est des robes, je fais les marchés aussi, et puis des fois avec des marchands j'achète leur fin de stock et puis après je fais des choses avec ou comme ça. Là non plus, c'est un tissu qui vient du Rajasthan, ce tissu. Mais voilà, le tissu wax, on le fait venir justement depuis la Gambie directement, ça permet de faire vivre des gens là-bas aussi. Le popeline aussi, tout ce qui est tissu, en fait, on se fournit là-bas.
Ce qui est bizarre, c'est que le wax, c'est vraiment le tissu de ce pays, mais il est souvent produit en Hollande
ou comme ça, en Nigeria, tout ça, c'est vrai. En Gambie, ils n'ont pas d'entreprise, en fait, de coton. C'est vrai qu'ils font venir. Et puis, mais la Gambie, c'est vraiment le pays des couturiers, on peut dire. On trouve des couturiers un peu partout. Et puis nous, voilà, on reflète tout ça par le beat qu'on fait ici, quoi. Voilà, là, justement, un mélange mix popeline wax, la photo d'avant. Et là, on refinit par une photo du pavillon bleu. Ah non, il y a encore une, là, c'est au village avec les anciens, Njabakunda. On a parlé un peu des différents projets, tout ça. Prévu, voilà. En gros, c'est ça. Si vous voulez revoir, je vous laisse. Le plaisir de regarder, le plaisir des yeux.
On peut te poser la question, comment tu as découvert ce pays ou comment tu as décidé
J'ai rencontré un jour mon mari, un coup de foudre, on va dire. Il y a 17 ans en arrière. Et puis je suis tombée amoureuse de ce pays en le voyant. Oui. C'est la population, des gens très ouverts, très chaleureux. Qui dernièrement, ça a failli partir en guerre, il a fait un peu la une des journaux, fin d'année 2016, c'est là qu'on a, nous, commencé notre association, en fait. Avec mon mari, ça fait 15 ans qu'on faisait les marchés, puis qu'on faisait des petites aides ponctuelles, un peu de gauche à droite, comme ça. Et puis là, on a voulu justement mettre en valeur un peu tout ça, et puis développer, aller plus loin et tout. Et puis, pendant il y a eu changement d'élection. Maintenant, ils ont un nouveau président, Adama Barrow, mais c'était... Ouais, début décembre 2016, que les élections, ça a passé, mais l'ancien président Yahya Jammeh, alors lui, il ne voulait pas quitter le pouvoir, ça fait vraiment des histoires pas possibles. Il y avait la moitié de la population qui, eux, refusent de se battre, qui quittaient en fait le pays. Et c'est que le 21 janvier 2017 de cette année qu'il a pu devenir réellement président. Après que l'ONU intervienne, il y a eu beaucoup de pays qui ont intervenu par rapport à tout ça. Parce que voulait juste essayer de. En fait, il a pris lui-même à l'époque le pouvoir par coup d'État, en fait. Et puis, c'était plus de 20 ans, à peu près. C'était une dictature, il n'y avait pas de liberté d'expression, il y a beaucoup de gens qui ont disparu, il a fait des actes criminels, mais des trucs horribles, on raconte des choses qu'il avait un puits, et puis qu'il avait des croyances, il jetait les gens dans le puits, il faisait des sacrifices, des trucs mais vraiment abominables. Et puis maintenant, les gens sortent de tout ça. Et puis il a essayé de mettre les différentes ethnies entre elles, hein, et ça n'a pas marché. Peut-être la raison est que les Gambiens, déjà, ils sont très pacifistes, ils détestent tout ce qui est problème, tout ça, et tout. Et aussi, en fait, la Gambie, la population, ils sont à peu près 2 millions pour 11 000 km² à peu près. Mais il y a beaucoup, on trouve les mêmes noms de famille, et c'est beaucoup de famille, quoi. En rencontrant des gens, quand je leur parle, je dis « Ah, mais moi, je connais, j'ai un membre de la famille, là, là, là. » Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient se battre en famille, en fait? Ils n'allaient pas rentrer dans un conflit du moment où, pour eux, ils sont tous un peu de la même famille, quoi.
Tu dis que la population, c'est 2 millions de personnes, c'est ça?
Oui, à peu près. Ouais.
1 967 000. C'est enclavé dans le Sénégal.
Oui, c'est une enclave dans le Sénégal. Il y a la capitale, alors, Banjul. Après, les deux autres grandes villes, Serekunda et puis Brikama. Et puis après, c'est tous des petits villages et provinces. Comme ça, quoi. Et puis, c'est une des grandes villes qui est tout au fond.
C'est pour ça que les produits, on retrouve les produits sénégalais ou une partie des plats, ou le thé dont tu parlais, c'est aussi quelque chose qu'on
trouve. Oui, c'est très similaire. Justement, le Nyankata, le dernier plat qu'on a vu, c'est un plat de riz avec poisson et puis cacahuètes moulues. Excellent, moi j'adore. et puis on le retrouve aussi au Sénégal. La sauce d'arachide, c'est quelque chose de très connu. Le poulet yassa, justement, ça aussi, ils ont les mêmes plats un peu. C'est vraiment C'est vrai que le Sénégal à l'époque voulait prendre la Gambie parce que c'est plus facile pour eux pour traverser ou comme ça, mais eux ils ont toujours voulu essayer de garder leur indépendance qu'ils ont depuis 1965 en fait. Parce qu'avant ils étaient colonisés par les Anglais, ce qui fait qu'ils ont une différence de langue avec le Sénégal. Mais la région côté Sénégambia, côté touristique, c'est vrai qu'il y a.
C'est peut-être plus. Gambie et Sénégal, ils s'entendent relativement bien.
Ils s'entendent quand même assez bien, moi, je vois mon mari, une fois, il est arrivé par le Sénégal, et puis pour rentrer en Gambie, il s'est fait taxer, mais alors. au niveau du champ, il s'est pas fait arnaquer, alors c'est un peu malheureux qu'entre des fois, mais après, c'est vrai qu'il y a des problèmes un peu de corruption à l'aéroport, genre de choses, on nous donne les bagages, et tu me donnes ça.
Style en Gambie, donc il y a les histoires des scolaires par rapport à le manque de gens qui savent lire. Mm-hmm. Et il y a les gros points qui posent problème. C'est par rapport à le côté scolaire, les hôpitaux.
C'est les deux grands, les deux grandes choses. Et puis l'accès d'eau justement à la Ranja Jabakunda. Il y a une pompe dans le village, mais après, dès dès qu'il faut aller amener l'eau pour arroser toute cette région.
C'est des kilomètres à pied
Ça fait quand même des grosses distances, après, il y a cet accès de rivière au milieu qui est bien, qui peut quand même permettre d'irriguer un peu aussi. Par contre, cette rivière, elle est un peu dangereuse. Je vous le dis par expérience, d'un autre voyage, je me suis baignée dedans. Quand l'eau se retire, c'est marécageux. J'ai de la chance, Dembo, là, m'a tiré en dehors de l'eau parce que je me sentais bon. Ouais, il faut se gaffer.
C'est pour le mille, c'est pourquoi?
Non, c'est juste, c'est des nids en fait.
Non,
des
juste
nids
avant, il y avait un pilon.
Ah oui, oui, c'est un pilon, ouais. Ouais. Qui est usé. Okay. Mais on pile le mille, pas seulement en fait. Quand on prépare les sauces, tout ce qui est oignon, garlic, l'ail, tout ça, piment, on écrase comme ça dedans et ensuite on va mettre dans la sauce. C'est une petite que j'aimerais bien essayer à l'avenir d'aider, qui a un gros problème au niveau des jambes en fait. On ne sait pas si c'est un peu en lien avec la polio ou comme ça. Elle n'arrive pas à se mettre debout. Elle a 2 ans à peu près. Et il n'y a aucune musculature au niveau des jambes. Et voilà.
Parce que une question au niveau universitaire. Sur les universitaires gambais, ils ont l'université dans quel domaine assez, ils sont aidés par l'ONU, par l'Europe, par...
Au niveau de l'université, je n'arrive pas vraiment à le dire. Je sais que il y a l'école il y a l'école, eux ils ont l'école coranique déjà. Tous ceux qui vont pas apprendre l'alphabet comme nous, il y a beaucoup qui vont là. Après l'école qui est payante, l'école coranique c'est gratuit en fait. Hein. L'école anglaise, il y a un écolage et aussi ils ont encore l'uniforme, le reste de la colonisation anglaise en fin de compte. Alors du coup c'est payant, ce qui fait que justement l'accès aux écoles est difficile, voilà, parce que ils vont même jusqu'à vérifier en fait un enfant qui va se présenter et puis que les parents ne peuvent pas payer l'écolage, c'est malheureux, mais ils vont vraiment lui dire ah non, toi tu peux pas venir, tes parents ne peuvent pas payer, tu sors quoi. Après au niveau de l'UNI, je l'arriverai moins bien à répondre à ta question.
C'est difficile d'accéder aux études, de devenir médecin et puis ensuite pouvoir soigner les gens dans le village.
Exactement.
D'où le fait qu'il y a pas mal d'artisanat.
Oui, les gens, ils vivent beaucoup de leurs mains. Et puis, il y a beaucoup de la couture, je disais. Il y a beaucoup de petits couturiers de gauche à droite. Ils vivent de ce qu'ils poussent, ils vont vendre ça sur le marché. C'est beaucoup.
Et au niveau animalier? À part les crocodiles.
À part les crocodiles. Alors, c'est un pays qui a beaucoup d'oiseaux, en fait. Il y a pas mal de gens qui viennent étudier, des ornithologues qui viennent étudier en Gambie tous les oiseaux. Et après, il y a des singes. Il n'y a pas de girafes ou comme ça, ou de grands éléphants comme au Kenya, pas du tout. Il y a des hyènes. Il y a les vautours, vous avez vu, là. Ah oui, il y a plein de petites chèvres partout. Chèvres, moutons.
Ils font du fromage ou pas?
Alors, c'est difficile de trouver du fromage. Je sais qu'ils font du lait caillé, comme ça. Mais sinon, non. Produits laitiers, il y a très peu. La nourriture de base chez eux, c'est vraiment le riz, qui n'est pas en suffisance dans le pays, en fait. Ils font venir aussi. Il y a des rizières et tout ça, mais ça ne suffit pas pour... pour subvenir. Et puis c'est dans la mentalité. Pour eux, s'ils n'ont pas mangé de riz, ils n'ont pas mangé quoi. Pourtant, ils pourraient manger aussi d'autres choses. Les grosses racines, la tubercule, comme le manioc, ce genre de choses, le foufou, tout ça, il y a aussi d'autres choses. Mais c'est vrai que le riz, c'est l'alimentation de base. Ouais. Ce qu'il y aurait moyen de développer plus là-bas, c'est les cachous. J'ai vu à côté Banjul, ils ont commencé l'entreprise de cachou, tout ça. Et puis, il y aura moyen de développer l'importation aussi. Ça, c'est quelque chose, l'arachide et tout ça.
Tu disais que parmi les ressources de la Gambie, il y avait aussi un peu le tourisme.
Oui.
Quel genre de tourisme? Qui vient et comment les gens viennent?
Alors, malheureusement, ce n'est pas un bon tourisme. En fait, c'est les jeunes Africains. On va dire que c'est les blanches qui viennent d'un certain âge et qui viennent chercher un boys. Hein, je ne sais pas comment on appelle ça, le tourisme un peu de prostitution. Une forme de prostitution, c'est pas...
Ça, c'est accepté par l'État. Ça ne pose pas des problèmes graves, des fois.
Il y a eu un ou deux reportages, mais je crois que c'est même pas... Ouais. ça passe comme ça, un peu sous le tapis. Après, voilà, ils viennent, ouais, les Blancs viennent pour profiter des belles plages, des beaux hôtels bungalows du bord de la plage, des restaurants et tout ça, voilà. Mais après, c'est une minorité de la population qui vit de ça, quoi, je veux dire, on va dire, hein, c'est, voilà, c'est pas, c'est côté plage, quoi, côté Sénégambie.
Les matières premières du pays, est-ce qu'elles sont... l'objet de convoitises de pays, que ce soit le Sénégal, ou des limitrophes, ou...
Non, là-bas, on ne va pas trouver des diamants ou de l'or, mais... ça, non. Non, non, il n'y a pas... dans les ressources naturelles, il n'y a pas ça.
Je me demandais comment les Blancs étaient perçus là-bas.
Alors, quand on se balade, on nous dit « Touba, Touba, Touba », ça veut dire « étranger », mais pas méchamment. Hein. C'est beaucoup les enfants qui nous appellent comme ça. Mais quoique, des fois, il y a, avec ce reste de colonisation, enfin, ça fait pas si longtemps, hein, 1965, qu'elle est indépendante, il y a des fois, on se trouve confronté, certains qui mélangent tout et puis qui vont te dire, qui vont penser aux colons, quoi. Et puis qui peuvent te dire ouais, tout bas dans un peu dans un mauvais sens en fin de compte, mais sinon non, on est bien perçu et puis bah, très remercié aussi quand bah, par les actions qu'on fait là, quand j'ai amené au village le matériel médical et tout. Non, les gens ils sont heureux de nous voir aussi, mais malheureusement ils ont une fausse idée de chez nous, hein. Ça, comme beaucoup de pays d'Afrique. Ouais,
comme le, voilà, la dame hier, comment elle s'appelle déjà, qui est l'humoriste africaine, ouais, qui a raconté son voyage.
Léon,
oui.
Ça c'était cool. Ouais, ouais, elle a bien expliqué la vision. Bah, comment une personne qui part d'un petit village arrive en Europe et puis découvre un monde qui est un petit peu futuriste.
Exactement.
Certains aspects.
Et puis, à l'intérieur du pays, est-ce que c'est relativement homogène ou est-ce qu'on retrouve les divisions, pas graves, hein, mais les divisions comme il y a même en Suisse, entre, avec le Roche Tigrade, hein, tu vois, est-ce qu'il y a des équivalents entre les populations de la ville et de la campagne ou du nord et du sud? En l'occurrence, ça serait peut-être plus d'une rive ou de l'autre rive. Ou alors de l'Orient et de l'Occident du pays, puis c'est un pays qui s'étend un peu comme ça.
Est-ce qu'il y a des religions?
Est-ce que c'est un pays plutôt homogène? Est-ce qu'il y a là aussi un petit peu des. Pas des dissensions, mais des petites différences comme ça?
Non, je pense que dans l'ensemble c'est assez homogène. Après, on voit quand même certains qui ont peut-être plus réussi que d'autres, et puis qui ont quand même plus. Voilà. Mais dans l'ensemble, bah, ils vivent tous d'agriculture, de leur travail ouais, au champ ou comme ça, et puis ce qui fait que c'est assez... Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Ils ont l'impression de vivre comme eux-mêmes, relativement bien, ou alors pas bien du tout, et puis c'est quoi leurs aspirations? Ils se disent, tiens, parce que typiquement, moi, pour avoir parlé avec des personnes du Rwanda, il y a encore un modèle qui est celui de l'Occident américain, avec par exemple le fait de regarder des films blockbusters américains et de se projeter dans une sorte d'American way of life. Et c'est une parmi les aspirations des gens des villes. Et je me demandais si, ou à la ville ou à la campagne, nulle part, en Gambie, puisque ce sont des anglophones, est-ce qu'il y avait ce type d'aspiration, ou si pas du tout, et puis ils étaient relativement contents, satisfaits de leurs conditions.
Malin. Certains sont satisfaits de leurs conditions, mais c'est vrai qu'ils aimeraient quand même plus. Et ils ont justement cette image de l'Europe, en pensant qu'ils vont avoir plus. Et puis, à Ndjabakunda, il y a justement toute la tranche d'âge 25-30 ans qui n'est plus vraiment présente dans ce village au niveau des jeunes. Parce qu'ils ont un peu tous quitté le village pour partir en Europe ou aux États-Unis ou comme ça. Dans l'espoir aussi d'aider, c'est pour ça qu'il y a une association même aussi sur place, en fait, avec les anciens, dans l'espoir d'aider le village et puis de continuer à développer aussi, comme nous, on essaye d'aider aussi. Mais c'est vrai qu'ils partent tous dans l'idée d'avoir beaucoup et puis ils se retrouvent en fin de compte rien. Quoi.
À Genève, la diaspora gambienne. En Europe ou à Genève, il y a beaucoup de monde, vu qu'il y a 2 millions en Gambie. Mm-hmm. À l'extérieur de Gambie, des Gambiens, ils sont plus ou moins établis à combien?
Les États-Unis, j'arriverai pas à dire. Mais comme je vous dis, bon, je sais même pas le nombre d'habitants exactement au sein du village, mais je pense qu'ils sont assez nombreux un peu partout. Donc,
ça peut être le double de la population. Enfin,
non, peut-être pas autant, quand même pas, mais voilà, je pense que c'est quand même...
C'est-à-dire qu'il y a des chemins, des chemins habituels d'expatriation, d'émigration pour les Gambiens, typiquement... La Suisse, ça pourrait être...
C'est vrai que la Suisse, c'est un
des...
Au niveau de l'Allemagne, aussi au niveau des États-Unis. Mais c'est vrai qu'ils sont à peu près à tout des fois pour partir, faire des voyages de énormes pour arriver jusqu'en Europe. Au risque de leur vie, en fin de compte.
Si on demande à des jeunes Gambiens qui sont là-bas d'observer le monde autour d'eux, ils disent quoi ? Est-ce qu'ils ont par exemple conscience de ce qui se passe, de tous ces gens qui sont morts en Méditerranée, de cette réalité en Occident, et notamment en Europe qui refoule des personnes migrantes ? Toutes ces problématiques-là, ils ont conscience ?
Ils ne comprennent pas pourquoi ça bloque au niveau des papiers, déjà. Ils trouvent bizarre. Parce qu'ils disent, nous on accepte justement les Européens chez nous, on ne fait pas d'histoire pour un visa, pour qu'ils puissent venir en vacances ou quoi que ce soit, même s'installer. Alors ils ne comprennent pas que ça n'aille pas dans les deux sens en fin de compte. Ils ont toujours cette image, ce serait mieux ici, malgré qu'ils savent très bien qu'il y en a qui meurent sur la route. Je crois qu'ils essaieront toujours afin d'aider plus leur propre famille, quoi, c'est un peu ça.
Mais il y a quand même une conscience qui émerge de ce qui se passe ici et du fait que quand tu arrives ici, effectivement, tu te retrouves dans des conditions qui sont absolument dégradantes.
Oui, dégradantes, oui. Alors, je crois que par fierté, ils n'en parlent pas autant. Ils n'osent pas parler dans quelles conditions ils se trouvent ici, vis-à-vis de la famille et comme ça. Ils vont pas le... Voilà. Ils essayeront de dire, on s'en sort, tout va bien, ça va. Même, ça fait partie aussi de la culture gambienne, de ne pas aller se plaindre quand ça ne va pas. Tout va bien, tout va toujours tout bien, quoi, en fait. Voilà. Je pense que du coup les gens sur place sont pas autant conscients de comment ceux qui se sont expatriés ils se rendent pas compte forcément de ça. Nous on essaie justement par le biais de donner des petits emplois sur place au fait qu'ils évitent de partir comme ça en masse et tout et que justement ils essayent par eux se développer quoi. On a envoyé justement un véhicule avec il y avait du matériel médical et puis habit de deuxième main et le véhicule ça permet de faire vivre une famille avec là j'ai appris justement une fille comment fixer quoi faire des tongs en wax, chose que je fais ici, et puis maintenant ils sont en train de développer ça, plein de petits projets comme ça divers pour qu'ils essayent de plutôt rester là-bas et essayer de se développer
des possibilités. Il y a une question qui me vient à l'esprit aussi, au niveau des journaux gambiens et des journalistes.
Alors, il y a trouver de la lecture en Gambie, à part le Coran, je vous dis que c'est difficile. Ma maman voulait un livre parce qu'elle avait fini son livre rapidement après une semaine. Trouver une librairie, c'est inexistant. Franchement, j'ai même pas trouvé une librairie pour ma maman. La seule librairie que j'ai trouvée, c'était que des livres le Coran. Il y a quand même un journal gambien, mais c'est vrai que j'espère que ça va se développer plus vis-à-vis de ça. Mais ils ont tellement été dans sous dictature, sans possibilité d'expression, il n'y avait pas de liberté d'expression pendant énormément d'années. Qui fait que tout ça, c'est pas autant développé. Il y a une radio, il y a deux, trois trucs comme ça, il y a quand même des médias, mais après, c'est...
Bon, allez, dans ce que tu dis, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les livres, on les trouve pas parce que c'est mal admis, ou on les trouve pas parce qu'il y a d'autres, des filières qui sont manquantes ? Il manque des librairies ou alors c'est parce que c'est mal vu d'avoir une librairie à Banjo, par exemple?
Non, je ne pense pas que c'est mal vu du tout. Et puis bon, après, il y a aussi un problème avec le climat, en fait. Parce que c'est un climat tellement humide. Vous avez un livre, vous le gardez, il va onduler, gondoler. Il va avoir du mal à tenir, quoi. C'est aussi...
Transmission orale, c'était quand même...
Oui, mais bon, voilà, quoi. Mais je pense que c'est plus... avec ce gros problème d'analphabétisme, 60% des femmes, 40% des hommes, je pense que voilà, toute la lecture, ça ne s'est pas autant développé que ça. Voilà. C'est plus, oui, la Gambie, c'est une tradition orale, en fait. Il y a les griots, tout ça. Ça se transmet tout par les conteurs, en fait. Tout ce qui est ancestral, tout ce qui est plantes médicinales, c'est les anciens. Voilà, il y a beaucoup le respect des anciens. On écoute l'ancien et ses histoires, en fin de compte. Et puis, c'est beaucoup comme ça, quoi. C'est par parler. D'ailleurs, le Mandinka, c'est une langue parlée qu'on retrouve que plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent communiquer entre eux, qu'on retrouve avec le Bambara des Sinitunes, au Mali, au Burkina, ils arrivent à communiquer entre les Gambiens, parce qu'ils ont un peu une même racine de dialecte, en fait, on peut dire. La région, c'est toute une région mandingue, comme ça. Mais voilà, c'est une langue parlée à la base, la majorité de la langue du pays, en dehors de l'anglais. Hein,
ouais. Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'il me semble en Afrique, moi j'étais au Tchad et au Cameroun et au Burkina, j'ai l'impression qu'il y a plus les radios justement, du fait de l'alphabétisation, etc. Les radios ça marche.
C'est vrai.
J'ai trouvé plus souvent ça.
Oui, c'est vrai. Et c'est vite, là, je peux vous dire une expérience. Mon neveu, il avait perdu des documents importants dans un bus, quoi. Il avait zappé en chemin ça. Et puis, on a fait marcher les radios pour retrouver lequel bus c'était et retrouver ses documents. Et on a retrouvé grâce au biais de la radio, quoi. Ouais.
Ouais. Sinon, qu'est-ce qui relie les gens? C'est la culture, l'art et la culture en Gambie. Ça prend quelle forme? Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de... Tout à l'heure, tu parlais de culture sur bois.
Oui.
De peinture, je sais pas, c'est quoi?
Oui, alors la musique, c'est vrai que ça relie beaucoup. Sculpture, la couture, l'agriculture, tout ça. Mm-hmm.
Et les pistes pour que les gens se développent un peu, c'est quoi? C'est beaucoup l'artisanat. Enfin, ce sur quoi vous avez envie de parler?
Alors nous, on aimerait essayer de mettre en valeur tout l'artisanat. Nous, on fait un système de commerce équitable. On fait travailler justement différents artisans, que ce soit dans le domaine aussi de l'argent. Et puis, on aimerait essayer de mettre en valeur tout ça pour montrer ce qu'ils savent faire. Et puis, je crois qu'il y a aussi cet accès d'eau, là. Ça, c'est important pour qu'ils se développent, qu'ils aient plus facilement accès à l'eau et puis pas devoir porter des kilomètres, un énorme seau. Voilà.
On parlait tout à l'heure du commerce international, en fait, du tissu. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont conscience, justement? Est-ce que Squax, il est fayeur? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de se réapproprier leur matière première, finalement?
Alors, comme on voyait là, le tisserand, hein, quoi, juste le métier à tisser pour... Ils ont alors le fil, quoi, ils ont un fil typiquement de là-bas qui travaille et puis un tissu particulier justement suite à ça, qui est tissé comme ça. Mais après c'est vrai que le wax, il vient de l'extérieur, quoi. Je sais pas s'ils arriveraient à développer à ce point-là comme ça. Je sais pas ça.
Parce que ça, c'est quand même devenir la matière première.
Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
Matière de choix, en fait, une monnaie de change dans tout le pays.
Mais
c'est la fierté aussi.
Oui, vraiment. Oui, c'est, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qu'on pourrait voir, quoi, pour essayer de mettre plus en avant. C'est vrai, tu as raison.
Je sais pas. Ce serait
Mm-hmm. Merci
beaucoup. Ah, moi, j'ai juste une question. Voilà. C'était juste le nom de l'association que je puisse suivre après.
Unjapakunda.
Ubanju.
C'est le nom du village.
Tu pourras me l'écrire
après. Oui, bien sûr. Avec plaisir.
Non, c'est pour...
Ouais,
bah,
c'est pas
difficile.
Pour retenir si...
Oui. Tu vas pouvoir, tu pourras écouter le podcast et puis les autres interviews qu'on a fait avec
pour suivre le projet et voir
avec plaisir.
Ça va être là ou encore d'autres questions?
Je sais pas.
Merci beaucoup.
Ouais, merci. Merci à vous.
On n'a pas dit, il y a peut-être une actualité. Prochain défilé, hier, tu en as fait encore un.
Oui, hier, on a fait à la Villa Tacchini avec une association du Bénin, en fait. C'était super sympa. Avec une bonne équipe de mannequins, on s'est bien amusé. Et puis ça montre justement les créations qu'on fait ici avec notre couturier qui vient du Burkina Faso, en fait, avec qui on collabore aussi. Et puis, bah, prochain événement, peut-être les Sainte-Clotilde.
Vous connaissez,
oui.
Ouais.
Alors, ce sera un défilé un peu particulier sur des habits de deuxième main. On veut fixer, parce qu'on customise avec le tissu africain, le wax. Et c'est la sérigraphie. Alors, là, ce sera vente de vêtements à prix libre aussi. Ce sera tout à prix libre. Et défilé sur habits de. Voilà.
Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio, www.libradio.org.